les podcasts de Radio Vatican.
À l'occasion de la journée de l'Afrique, ce jeudi 25 mai 2017, nous nous arrêtons quelques instants sur les enjeux du dialogue interreligieux sur le continent. L'avancée de l'islam en Afrique de l'Ouest, notamment, suscite un certain nombre de craintes pour la coexistence pacifique avec les autres religieux, d'autant que cette avancée est accompagnée par des groupuscules qui instrumentalisent l'islam pour perpétrer des actes de violence. Ces groupes sont connus, ils s'appellent Takmi, Boko Haram ou les Shebab. Cependant, ce serait une erreur que de réduire l'islam à ces organisations terroristes. Un islam modéré est présent sur le continent africain depuis le 9e siècle. Dans des pays comme le Sénégal, à majorité musulmane, la coexistence entre différentes croyances est portée en exemple. Mais ces dernières années, différents courants ont vu le jour et menacent cette cohabitation pacifique. Le dialogue interreligieux est devenu une priorité et les initiatives, grandes ou petites, se multiplient, comme l'explique le père assomptionniste burkinabé Jean-Paul Sagadou, coordinateur éditorial du site Urbi et Orbi Africa du journal La Croix. Il est interrogé par Jean-Charles Puzolu.
On dit que la prière d'un seul moine perdu dans la montagne peut convertir tout un peuple. Il me semble que les petites initiatives qui se font aujourd'hui sur le continent pour faciliter, favoriser le dialogue interreligieux ont de l'avenir. Parce que je crois que le contexte est appelé à ne pas être un contexte de violence, mais un contexte de paix, un contexte de fraternité, de solidarité, parce que ce sont des conditions nécessaires pour le développement du continent. Vous le savez, il y a une trentaine de pays en Afrique qui ont connu des conflits autour desquels on a été obligé de mettre en place des commissions vérité, justice et réconciliation, parce qu'on a compris la nécessité de ce travail-là. Évidemment, il y a une force de frappe de l'islam salafiste. Dans certains pays, ça reste minoritaire, mais il y a des craintes très fortes. Ma conception, ma vision des choses, c'est que face à ce salafisme qui tente de s'installer un peu partout, il faut qu'il y ait vraiment un éveil de conscience des populations sur place pour faire la part des choses entre l'islam, religion de paix, d'amour, du Dieu miséricordieux qui nous lie au Tout-Puissant et la différence avec l'idéologie de l'islam prôné par le salafisme aujourd'hui sur le continent et qui ne fait que contribuer à détruire tout ce qui essaie de se construire sur le continent. Et donc pour moi, ça c'est un des défis.
Alors de fait, est-ce qu'on peut parler de la présence de plusieurs islams en Afrique ? Un islam plus modéré, un islam plus radical de l'autre côté ? Mais est-ce que c'est la même religion ? Est-ce que c'est le même islam ?
Alors aujourd'hui, on peut parler de plusieurs types d'islam sur le continent. Vous avez évidemment ce que j'ai appelé l'islam modéré, qui est arrivé, c'est le sunnisme aujourd'hui, qui dans ses origines est plutôt favorable à une forme d'adaptation, d'inculturation de l'islam en lien avec les religions traditionnelles africaines. Et donc là, ça se passe bien. Mais évidemment, on fait le constat que depuis un certain nombre d'années, il y a des courants qui sont nés à l'intérieur du sunnisme, comme le salafisme et le wahhabisme, qui s'installent aussi aujourd'hui sur le continent. Donc ce sont ces branches-là, portées par une idéologie violente de l'islam, qui constituent des menaces pour le continent. Dans d'autres pays, comme le Sénégal, il y a des confréries musulmanes qui vivent de manière harmonieuse avec les autres confessions religieuses. L'islam, le Sénégal est un pays à majorité musulmane, mais on a compris que c'était un pays où il y avait un dialogue suffisamment pacifique. On a eu des présidents, des chefs d'État chrétiens, dont Senghor, dans un espace complètement islamisé, et les choses se sont plutôt bien passées. Donc je crois qu'aujourd'hui, il y a des menaces fortes qui sont liées effectivement à un environnement géopolitique qui est un peu difficile, avec des réalités de pauvreté sur le continent africain et qui facilitent, j'ai envie de dire, l'installation de cet islam radical qui vient avec la puissance économique, avec l'argent.
C'est cette pauvreté qui fait de l'Afrique aujourd'hui un terrain fertile à des religions conquérantes ?
Oui, je crois que ça, c'est un élément important. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, l'espace ouest africain et globalement l'Afrique reste un continent pauvre, marqué par le chômage. Et un certain nombre de jeunes se laissent facilement embarquer parce qu'ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de vivre. Et lorsqu'il y a des propositions qui leur sont faites, ils n'ont pas forcément tous les éléments de discernement pour faire la part entre ce qui construit, ce qui constitue des éléments de destruction et ce qui constitue des éléments de construction.
Alors, on vous entend aussi prôner la culture de la rencontre et du dialogue. Pour développer cette culture de la rencontre, il faut connaître l'autre. Est-ce que la formation des prêtres, est-ce que la formation des imams tient en compte cette connaissance de l'autre pour ensuite pouvoir parler librement pour un prêtre de l'islam, pour un imam du christianisme, à leurs fidèles?
Les conférences épiscopales en Afrique sont très sensibles à cette question. Peut-être qu'on devrait encore mettre beaucoup plus l'accent, notamment dans la formation au niveau des séminaires, que les notions, les cours au niveau du dialogue interreligieux ne restent pas seulement sous la forme de sessions, mais qu'on instaure de manière forte des cours sur le dialogue interreligieux, de telle sorte que ça contribue à ouvrir l'horizon des futurs prêtres. Là où c'est un peu plus difficile, c'est du côté de l'islam. Mais je pense que le dialogue qui s'instaure entre les différents niveaux, au niveau de la religion traditionnelle africaine, au niveau des responsables de l'Église catholique et au niveau des responsables musulmans, notamment dans des pays comme le Burkina Faso ou le Sénégal, peut être un espace où on sensibilise la plupart des responsables religieux à tenir compte de la formation à la fois des fidèles et des imams, de telle sorte qu'on ne s'engage pas dans des prédications violentes qui contribuent à semer la cisanie et la guerre entre les personnes.
Est-ce qu'il y a matière à s'inquiéter aujourd'hui pour l'Afrique? On voit des groupes avancer au nom de l'islam, qui instrumentalisent l'islam. On peut parler de Boko Haram, on peut parler de Acmi, et il y en a comme ça des dizaines. Est-ce que l'Afrique a une chance d'être pacifiée un jour?
Il y a des craintes aujourd'hui. Il y a des craintes très fortes au niveau des populations. Et j'ai le sentiment que ces craintes-là sont entendues par tout le monde, à commencer par les responsables politiques et les responsables religieux. Aujourd'hui, il y a des initiatives énormes sur le continent qui travaillent à contrecarrer, j'ai envie de dire, cette poussée de l'islam radical. Donc je ne désespère pas. J'ai espoir que nous pouvons nous en sortir, qu'on n'est pas condamné à un continent qui va vers simplement la violence. Maintenant, il faut que nous mettons toutes nos énergies pour éduquer la jeunesse, qu'elle soit musulmane, chrétienne ou des jeunes qui se réclament de la religion traditionnelle africaine. Il faut que nous puissions avoir une éducation, une formation qui contribue à élargir leur esprit, leurs horizons, pour qu'ils ne s'engagent pas dans cette dynamique-là de violence qui fait du mal au continent.
Est-ce que les institutions étatiques, est-ce que les gouvernements, est-ce que les chefs d'État en Afrique peuvent contribuer à cette culture de la rencontre?
Aujourd'hui, oui, parce que vous avez des institutions comme l'Union africaine, comme la CEDEAO, qui se sont engagées dans l'organisation de symposiums, de forums, et qui font appel à des responsables religieux pour sensibiliser l'ensemble de la population et des responsables religieux aux enjeux du dialogue interreligieux, pour que cela crée les conditions favorables pour le développement et la paix.
Un entretien réalisé par Jean-Charles Puzelu.